Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 5 juillet 2017 en direct de Washington. Idrissa Seloudia et Jean-Roger Bion pour commencer les titres.
Kinshasa et l'ONU accusés de légèreté au Kasaï par des ONG congolaises.
Human Rights Watch recense les meurtres impunis des groupes armés en Centrafrique.
Plus de 7 millions d'enfants déplacés chaque année en Afrique de l'Ouest et du Centre, selon l'UNICEF.
Au Maroc, les forces de l'ordre ont entamé un retrait progressif de lieux publics symboliques à Al-Hoceima.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson demande une action globale face à une menace globale après le dernier test de missile balistique nord-coréen.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Un collectif d'ONG congolaises du Kasaï a accusé de légèreté Kinshasa et l'ONU dans la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire dans le centre de la RDC. Eric Manirakiza.
Ces ONG congolaises reprochent au gouvernement d'avoir réservé un traitement non proportionnel, léger et moins efficace de la crise sécuritaire et humanitaire créée par des violences et déplorent que l'insécurité persiste dans la région du Kasaï. Ces organisations accusent l'ONU et ses agences qui s'enlisent dans des études et des procédures anachroniques avant d'apporter une moindre assistance d'urgence aux milliers de victimes qui croupissent en forêt ou en brousse. Les femmes et les enfants sont exposés aux conditions inhumaines, précisent les mêmes organisations. Selon l'Église catholique, des atrocités ont causé la mort de plus de 3000 personnes et fait plus d'un million de déplacés. L'Église a aussi identifié 30 fosses communes, tandis que l'ONU en a dénombré 42. La MONUSCO a annoncé le déploiement imminent de deux compagnies de casquets bleus sud-africains et ghanéens pour renforcer le bataillon pakistanais déjà sur le terrain.
L'ONG Human Rights Watch a recensé les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par les groupes armés en Centrafrique entre 2014 et 2017 dans un rapport paru aujourd'hui et en amont de l'ouverture de la Cour pénale spéciale à Bangui qui doit juger ces crimes. Au total, 566 meurtres de civils au cours d'attaques et 144 dans la brousse sont documentés dans le rapport de l'ONG. Ce rapport, qui vise à promouvoir le devoir de rendre des comptes là où le meurtre sans conséquence a été la norme, décrit témoignage à l'appui les meurtres commis entre la fin de l'année 2014 et avril 2017 dans les régions centrales de la Centrafrique.
Un groupe d'adolescents gambiens a du mal à comprendre pourquoi on lui a refusé les visas d'entrée aux États-Unis où il avait été invité à un grand concours de robotique, le First Global Challenge, ici à Washington. Le même sort avait été réservé quelques jours auparavant à une équipe d'adolescentes afghanes par l'ambassade américaine à Kaboul. Aucune explication n'a été fournie dans les deux cas, alors que des invités venus d'Iran et du Soudan et des réfugiés de Syrie ont reçu des visas. Pourtant, à la différence de ces trois pays, la Gambie et l'Afghanistan ne font pas partie des pays à majorité musulmane affectés par le décret migratoire du président Donald Trump.
Plus de 7 millions d'enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre deviennent des personnes déplacées chaque année, selon un rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui. Et le manque d'opportunités économiques, les guerres et les changements climatiques poussent à la migration forcée. Plus de 12 millions de ressortissants de ces deux régions tous les ans. Les changements climatiques sont déjà une dure réalité dans beaucoup de parties d'Afrique où la hausse de la température et une pluviométrie de plus en plus irrégulière ont perturbé la production alimentaire et forcé les agriculteurs à abandonner leurs terres.
En Libye, une roquette tirée par des inconnus s'est abattue mardi sur une plage à Tripoli, tuant 5 personnes, dont au moins un enfant, selon un bilan du ministère libyen de la Santé. Au moins 25 autres personnes ont été blessées dans l'explosion qui s'était produite sur la plage en face de l'aéroport de Métiga, dans l'est de la capitale libyenne. Selon une source du ministère de l'Intérieur, des affrontements ont opposé mardi les services de sécurité à un groupe hors la loi dans le périmètre de l'aéroport.
Au Maroc, les forces de l'ordre ordre ont entamé un retrait progressif de lieux publics symboliques à Al-Hoceima. Il s'agirait là d'un geste apparent d'apaisement après 8 mois de contestation populaire contre le pouvoir dans cette région du nord du Maroc. Selon le gouverneur de la province du Rif, ce retrait a été décidé sur les directives du roi Mohamed VI pour garantir les libertés.
Par ailleurs, le Maroc s'est dit très satisfait des décisions relatives au Sahara occidental prises par l'Union africaine dont le sommet s'est terminé hier à Addis Abeba. Le point avec John Lindon.
Nasser Bourita, chef de la diplomatie marocaine, s'est dit hier très satisfait. Le Maroc participait à son premier sommet depuis sa réadmission au sein de la famille africaine après 33 ans d'absence. Monsieur Bourita s'est félicité d'avoir réussi à influencer l'écriture d'un rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour que soit supprimé le passage qualifiant le Sahara occidental des territoires occupés. Les chefs d'État africains ont adopté une résolution appelant à apporter le soutien approprié au secrétaire général de l'ONU pour résoudre le différend du Sahara occidental. Cette résolution, selon le ministre, reconnaît le leadership de l'ONU et que la gestion du dossier est à New York. Le royaume chérifien avait quitté l'organisation panafricaine en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique proclamée par le Front Polisario au Sahara occidental, un territoire que Rabat considère comme une partie intégrante du royaume.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson estime nécessaire une action globale pour mettre un terme à la menace globale que constitue le dernier test de missile balistique intercontinental par la Corée du Nord. Il s'agit là, selon le chef de la diplomatie américaine, d'une nouvelle escalade de la menace posée aux États-Unis, à leurs alliés et au monde. Il a ajouté que toute nation qui accueille des travailleurs invités nord-coréens fournit à Pyongyang des bénéfices économiques et militaires, ou toute nation qui n'applique pas les résolutions de l'ONU contre la Corée du Nord appuie un régime dangereux. Une réunion d'urgence à huis clos est prévue aujourd'hui par le Conseil de sécurité de l'ONU et M. Tillerson s'attend à la prise de mesures plus énergiques.
Sommet du G20, personne ne s'attend à ce que cette rencontre du week-end à Hambourg en Allemagne soit des plus aisées entre le président américain Donald Trump et ses homologues du groupe. On s'attend à des divergences de vues profondes entre M. Trump et la chancelière allemande Angela Merkel sur des questions comme le climat et le commerce, mais à une identité de vue sur la lutte contre le terrorisme, les ressentir de missiles de la Corée du Nord et le dumping chinois sur l'acier. Madame Merkel s'est engagée à œuvrer pour le Conseil sur un grand nombre de sujets, mais ne s'attend à aucun miracle quant à ses relations avec la nouvelle administration américaine.
L'autorité palestinienne a annoncé hier que plus de 6 000 fonctionnaires de la bande de Gaza vont devoir prendre une retraite anticipée. La mesure s'inscrit dans le cadre d'une épreuve de force avec Hamas. Le point avec Abdelrahman Dia.
Tarek Rishmawi, un porte-parole de l'autorité palestinienne, a annoncé que 6150 employés des services publics seront mis à la retraite anticipée. Il accuse le Hamas d'avoir fait échouer toutes les tentatives de réconciliation. Le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, a qualifié cette décision d'immorale et d'inhumaine. La prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2007 a été suivie par une quasi-guerre civile avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Cependant, l'autorité palestinienne a continué à payer les salaires des fonctionnaires de la bande de Gaza, mais a réduit leur montant au début de l'année. Le mois dernier, l'autorité palestinienne a cessé de payer à Israël la facture d'électricité de la bande de Gaza, ce qui a limité à 2 heures par jour la fourniture du courant avant que l'Égypte ne commence à fournir du fuel.
L'Arabie Saoudite et ses 3 alliés dans la crise avec le Qatar ont reçu la réponse de Doha. À leur liste de requêtes, ont-ils confirmé aujourd'hui, sans préciser la teneur du message. Les chefs de la diplomatie des 4 pays doivent se rencontrer aujourd'hui au Caire à partir de 11h GMT afin de discuter de la suite à donner à cette affaire. Auparavant, le Qatar avait qualifié ses demandes irréalistes et d'irrécevables, arguant que la liste ne porte pas sur le terrorisme, mais appelle à mettre fin à la liberté d'expression.
La procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, chaviste entrée en rébellion contre le président Nicolas Maduro, connaîtra son sort d'ici 5 jours, le temps pour la Cour suprême de décider si elle ouvre ou non un procès contre elle. Madame Ortega avait refusé mardi de se présenter à une audience de la plus haute juridiction devant laquelle elle était citée à comparaître. Voilà, c'est tout pour le journal. La Minute Écho d'Ilidico.
4 des 6 pays de l'espace CEMAC, le Cameroun, le Gabon, le Congo et la RCA, émettront des titres publics pour lever une enveloppe de 28 milliards de francs CFA. Le Gabon sera le plus gros demandeur de la séance d'adjudication aujourd'hui, car il ambitionne de lever 11 milliards de francs CFA via l'émission de bons du Trésor. Selon les statistiques de la BEAC, depuis le lancement du marché des titres publics en novembre 2011, les États de la CEMAC ont mobilisé près de 4 000 milliards de francs CFA. Le président zimbabwéen Robert Mugabe fait un don d'$1 million à l'Union africaine, expliquant que l'Afrique doit pouvoir se financer d'elle-même. Monsieur Mugabe a eu l'idée de vendre aux enchères 300 têtes de bétail et de reverser la somme à l'Union africaine. En 2017, le budget de l'organisation panafricaine est passé à $782 millions contre $416 millions en 2016. Plus de 60% des financements de l'UA proviennent de bailleurs de fonds extérieurs comme l'Union européenne, la Banque mondiale et les pays développés. L'Africa Finance Corporation accorde un prêt subordonné de $28 millions à l'entreprise tunisienne Topic SA. Ce prêt financera la toute première exploitation pétrolière de la concession offshore Alk El Menzel en Tunisie. Le titre subordonné est d'une durée de 30 mois et garantira la réalisation du projet d'une première production pétrolière d'ici janvier 2018.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football congolais, Chico Mukeba remplace Florent Ibenge. Mputu de retour.
Oui, le sélectionneur national des Léopards A&A et entraîneur de l'AS Vita Club, Florent Ibenge, se voit déchargé de l'une de ses responsabilités. Le technicien congolais n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale locale, les Léopards A'. Ibenge a été remplacé par Jean-David Mukeba, Katotolo Dichiko. Le nouveau sélectionneur qui entraîne actuellement Sa Majesté Sanga Balende occupait les fonctions d'adjoint. Il a déjà dévoilé une présélection de 34 joueurs en vue de la préparation de la RD Congo pour les éliminatoires du CHAN 2018. On note le retour de Trésor Mputu en sélection.
Enyema, Sunzu, Sliti, Talo, les indésirables de Bielsa à Lille.
Effectivement, Marcelo Bielsa est l'entraîneur de Lille depuis quelques semaines et comme à son habitude, le technicien chilien bouscule la maison dès qu'il débarque. Depuis la reprise des entraînements, le Nigérian Vincent Enyama, le Zambien Stopila Sunzu, le Tunisien Naïm Sliti et l'Ivoirien Junior Talo s'entraînent avec la réserve.
Haruna Kone prend la direction de la Turquie.
Oui, laissé libre par Everton, l'Ivoirien s'est engagé en faveur de Sivasspor en Turquie. Après avoir passé 4 saisons avec les Toffees, à 34 ans, Haruna Kone a paraffé un contrat de 2 ans. L'éléphant va ainsi découvrir son 6e championnat.
Une arrivée en altitude aujourd'hui dans le Tour de France.
Tout à fait, le Tour prend ses habitudes à la planche des belles filles, site d'arrivée de la 5e étape pour la 3e fois depuis 2012. C'est là que le Britannique Chris Froome a enlevé sa première victoire d'étape dans le Tour en 2012. En 2014, l'Italien Vincenzo Nibali, vainqueur final, s'est lui aussi imposé à ce même endroit. On rappelle qu'hier, le champion du monde Peter Sagan a été exclu de la grande boucle pour avoir provoqué une chute à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Le maillot jaune est toujours détenu par Thomas Gérin.
Du tennis pour terminer, Roger Federer encore plus dans l'histoire de Wimbledon.
Oui, c'est type lauréat du tournoi. Le Suisse s'est qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon en profitant hier de l'abandon de l'Ukrainien Alexander Dolgopolov, blessé à une cheville, lorsque Federer menait 6-3, 6-0. Grâce à ce match écourté, Federer détient désormais seul le record de matchs gagnés à Londres dans l'ère professionnelle depuis 1968, avec 85 victoires qu'il partageait auparavant avec l'Américain Jimmy Connors.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Crise burundaise, quatre organisations de la société civile, dont la plupart en exil, ont demandé le mois dernier au médiateur régional de fixer de nouvelles séances pour le dialogue inter-burundais. Cet appel fait suite au constat d'échec de l'ancien président tanzanien qui avait promis de conclure les pourparlers inter-burundais au mois de juin. Pour sa part, le CNDD-FDD, parti au pouvoir au Burundi, estime que ces pourparlers n'ont plus de raison d'être, tandis que l'opposition constate que le médiateur a presque jeté l'éponge. De Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Selon une correspondance adressée au médiateur Benjamin Mkapa, écrite par les organisations Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, au LUCOM en sigle, la campagne contre la vie chère, l'Organisation pour la transparence et la gouvernance et le Mouvement citoyen pour l'avenir du Burundi, ces organisations soumettent des inquiétudes relatives à la période projetée des pourparlers extérieurs inter-burundais qui pourraient ne pas être respectés. Pour le CNDD-FDD au pouvoir, le dialogue extérieur n'est plus d'actualité. Selon Évariste Ndayishimiye, le secrétaire général de ce parti, la paix et la sécurité sont déjà revenus au Burundi. Le médiateur n'a plus donc de rôle à jouer.
L'objet de ce dialogue était d'abord de réconcilier le peuple qui était dispersé à cause de la crise qui a été créée par certains détracteurs dans ce pays. Il fallait remettre des esprits en place. Il fallait que les citoyens se réconcilient. Il y a eu un retour massif des Burundais qui étaient à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons beaucoup de sujets liés à un dialogue qui nécessite un facilitateur. Faute d'objets, on n'agit pas.
Zenon Imurona, du parti de l'opposition Parena, parti pour le redressement national. Les problèmes dont les Burundais font face n'ont pas encore été résolus. Tous ces problèmes rencontrés sont à mettre au dos du gouvernement burundais, raison pour laquelle le médiateur semble avoir jeté l'éponge.
Dès lors que les chefs d'État n'ont pas fait de directive aux facilitateurs, ils ne peuvent plus convoquer une session de dialogue de son propre initiative. Il a remis, en quelque sorte, le mandat. Les blocages, il a dit que le parti au pouvoir était entièrement d'accord pour le dialogue, le gouvernement aussi, mais les actions montraient le contraire. Quand une partie met les bateaux dans les roues du facilitateur, il ne peut que déposer un facilitateur. Ce n'est pas un combattant, il ne combat personne.
En décembre de l'année dernière, l'ancien président tanzanien s'était engagé à arriver en juin de cette année à la conclusion d'un accord entre le gouvernement et son opposition pour régler la crise née du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, contesté par une partie de l'opposition en avril 2015. Des centaines de personnes ont déjà été tuées et des dizaines de milliers d'autres contraints à l'exil. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Congo-Brazzaville, lancement le week-end dernier de la campagne électorale en vue des élections législatives et locales dont le premier tour est prévu pour le 16 juillet prochain. Tous les partis de la majorité présidentielle se sont lancés dans la course. En revanche, côté opposition, les candidats abordent la campagne en rang dispersé, nous dit de Brazzaville notre correspondant Nguela Ngoussou.
Les artères de Brazzaville sont pavoisées de banderoles et effigies des candidats. Ces derniers ont 14 jours pour convaincre des électeurs qui ne se sentent cependant pas encore concernés par cette opération de charme.
Dans tout cela, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je sais que les campagnes ont bien, bel et bien commencé. Tout le monde sont maintenant en mouvement.
Bon, en fait, moi, je m'intéresse pas à ça.
On ne va pas à la chasse pour perdre. Donc, on va s'efforcer, on va se donner à fond pour que nous arrachions des candidats dans Poto-Poto.
Après un processus électoral qui a démarré en 2015 par le référendum constitutionnel, puis par la présidentielle de mars 2016, le Congo avance dans sa démocratie, souvent émaillée de violence. Quelques candidats parlent de grands projets pour faire espérer les populations.
Nous privilégions des lois sur la formation, sur l'emploi, sur la sécurité, sur la réduction de la pauvreté, sur la protection des vieillards, tout au moins des personnes du troisième âge.
Nous sommes arrivés au temps du changement parce que nous sommes dans la nouvelle République. Donc, comme on a dit, nous sommes à l'ère de vérité, de la paix, c'est-à-dire nous voulons un peu changer des choses.
À l'opposition, la frange de Mathias Nzon et Christophe Moukweke appelle au boycott de ces élections, tandis qu'à l'UPADES, 43 candidats sont en lice. Guy Brice Parfait-Kolela ne pourrait pas présenter de candidats car son nouveau parti n'a pas encore obtenu d'autorisation. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Burkina Faso, le programme d'autonomisation des jeunes et des femmes qui a été lancé par le gouvernement prévoit 16 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans et s'adresse aux jeunes et femmes scolarisés et non scolarisés des villes et des campagnes. Reportage de Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Dans le cadre de l'auto-employabilité des jeunes et des femmes, le gouvernement burkinabé a lancé le programme Autonomisation économique des jeunes et des femmes. Bamori Ouattara, le secrétaire général du Premier ministère, explique ici les objectifs et les conditions d'octroi des prêts.
Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes a été monté sur une période de 3 ans avec un budget de 16 milliards 500 millions. À travers la mise à disposition de ressources aux différents fonds nationaux de financement avec comme spécificité un dispositif allégé. Donc l'accès au financement sera plus facilité et les taux d'intérêt appliqués seront plus abordables. Par exemple, les personnes vivant avec handicap bénéficieront de ce financement avec un taux zéro. Donc, ils rembourseront le capital qu'ils auront reçu sans intérêt. Les jeunes et les femmes, il leur sera appliqué un taux de 1%. Pour ce qui concerne le financement du FAPE qui va être dédié aux jeunes diplômés d'université, là, le taux d'intérêt sera de 2%.
Sur le site de retrait des dossiers du prêt, nous avons rencontré Alassane Tiombianou. Il est revendeur de cartes de recharge pour téléphone cellulaire. Voici ses attentes.
Du côté de l'autonomisation, c'est vraiment un bon projet. Ça va permettre aux jeunes qui veulent entreprendre de pouvoir renforcer leurs activités avant de s'en sortir. Moi, j'ai demandé 1 million de francs CFA. Mon travail, c'est la vente, en gros, des unités de télécommunications, des recharges électroniques. J'ai aussi une alimentation que je gère. J'ai déjà au moins 6 employés. Il y a aussi le volet tourné. Ça veut dire que je tourne, je vends et j'ai pas moins de 100 clients. Ça va renforcer, sinon l'activité existe déjà depuis 2013, donc c'est un renforcement.
Pour l'étudiante Rukia Toussana, elle, il ne s'agit pas de renforcer, mais de créer sa propre structure. Suivant son histoire.
Comme je suis étudiante, mais comme l'université ne marche plus comme ça là, si on gagne l'argent, on peut créer, par exemple, un emploi pour se débrouiller en attendant. Je vais créer une entreprise de vente de vêtements féminins et masculins. Ça va beaucoup m'aider. Ça va permettre d'employer au moins 3 personnes ou 4 personnes comme ça.
Dans le tohu-bohu qui régnait sur le site du retrait, nous avons vu Gérard Ilboudo assis sur sa moto tricycle. Il a un problème particulier. on l'écoute.
Nous sommes venus pour chercher, bien sûr, les fils. Avec la lourdeur d'handicap, on ne sait pas comment ça se passe, ainsi de suite. Mais peut-être qu'il peut y avoir un guichet spécial pour les handicapés ou pas. Bon, ça me coince trop, justement. Un handicapé comme les autres. J'ai fait un petit élevage de poulets. Et certainement, si j'arrive à en avoir, peut-être ça pourrait améliorer. Et une fois que je gagne l'argent et que ça contribue énormément, bien sûr, je vais employer d'autres jeunes ajoutés à mes frères.
Zoumana Wondogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, Dakar, la capitale, fait face à une grave pénurie d'eau. Depuis plusieurs semaines, cette situation serait due à des travaux de raccordement que la Sénégalaise des eaux, la SDE, est en train d'opérer sur son réseau. Mais il y a aussi le problème classique d'une demande plus forte que l'offre. Des milliers de Sénégalais se retrouvent ainsi privés d'eau chaque jour, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagay.
L'eau coulait à flot la nuit de même que le jour, mais maintenant ce n'est plus possible. Et la nuit, l'eau vient tardivement.
Ibrahim Diop est député, car dans les quartiers de Dakar, l'eau se fait rare, même si les populations tentent tant bien que mal de surmonter cette situation. À Grand Dakar, un quartier populaire de la capitale sénégalaise, le liquide précieux ne coule presque plus. Comme l'indique Aosissé.
C'est pénible. Ça fait déjà 2 mois qu'on n'a pas d'eau. Nous sommes obligés de nous réveiller très tôt, vers 3 heures du matin, pour pouvoir faire des réserves. Au rez-de-chaussée, on arrive à s'approvisionner difficilement. La situation est pire pour ceux qui habitent à l'étage. Certains achètent même l'eau. Et parfois, il faut parcourir de longues distances avant d'en trouver.
Au-delà du déficit de production, les populations doutent de la qualité de l'eau. Pour Ndaï Thiam, les autorités doivent rectifier le tir.
Les temps sont durs, nous peinons beaucoup à accéder à l'eau potable pour boire ou pour cuisiner. Nous avons vraiment besoin d'aide. Quand l'eau arrive enfin, nous craignons de tomber malade en la consommant parce qu'elle est rougeâtre et sale. Tout le monde n'a pas les moyens d'installer des filtres à eau chez soi. La situation devient plus qu'alarmante et c'est le moment d'agir.
Le ministre de l'Hydraulique a annoncé le démarrage de plusieurs projets pour résoudre ces problèmes. De son côté, la Sénégalaise des eaux s'active pour combler le déficit en eau dans les meilleurs délais. Pour le moment, les autorités déploient quotidiennement des camions-citernes pour ravitailler certains quartiers en eau potable et soulager la population. Seydina Abagay, à Dakar, pour VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Get into the new hunger, come to
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Lumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.